Il est 7h sur Inter. Le journal, bonjour Laurence Thomas.
Bonjour à tous.
Ce week-end du 1er novembre est marqué par un regain de violence au Mali. Le groupe État islamique a revendiqué deux attaques, et notamment celle qui a coûté la vie hier à un soldat français. Les autres titres, Laurence ?
Le nouveau patron de la SNCF veut renouer le fil avec les cheminots, une volonté de paix sociale qu'il explique ce matin dans le journal du dimanche. Aux États-Unis, un nouveau décret sur l'immigration, légale comme illégale, entre en vigueur aujourd'hui. Il concerne la santé. Et puis les Sud-Africains ne touchent plus terre. Tout à leur bonheur d'être champion du monde de rugby, aussi fort que les Néo-Zélandais.
L'invité ce matin à partir de 8h20, ce sera le politiste Gilles Kepel. Il est directeur de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'École Normale Supérieure. On évoquera avec lui l'avenir de Daesh et aussi la situation depuis 15 jours au Liban.
France Inter. Le groupe État islamique a revendiqué hier soir à la fois l'attaque qui a tué 49 militaires maliens vendredi et celle à l'explosif qui a été fatale à un brigadier français hier matin. Pour Francis Simonis, maître de conférence en histoire de l'Afrique à l'université Aix-Marseille, il est probable que les deux attaques soient liées, contrairement à ce qu'affirmait l'état-major français, dans un contexte où, malgré les efforts des soldats de l'opération Barkhane, eh bien, les djihadistes se renforcent.
Jusqu'à présent, Daesh s'en prenait rarement directement aux soldats français. Et puis quand elle tentait de le faire, ça se passait mal. C'est ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours. Un groupe de Daesh s'en est pris à l'opération Barkhane et ils ont été taillés en pièces. Le but de l'opération Barkhane, c'est de lutter contre les groupes djihadistes présents dans la région. Et ça, Barkhane le fait plutôt bien. La semaine dernière encore, elle a démantelé un micro-groupe djihadiste dans la région d'ailleurs où ont eu lieu ces attaques. Le problème, c'est que l'armée française ne peut pas protéger les bases maliennes et c'est pas son rôle. Les forces internationales sont là pour protéger les populations, pour lutter contre les groupes armés, mais pas pour protéger l'armée malienne. La situation est catastrophique. Le gouvernement malien est incapable de reprendre le contrôle des zones qu'il a abandonnées depuis quelques années. Et les forces maliennes sont à la fois démotivées, mal entraînées, probablement mal armées. Et puis les groupes djihadistes se renforcent, ils prennent confiance en eux, ils sont capables de mener des opérations de plus en plus grandes, de plus en plus complexes.
Francis Simonis, maître de conférence en histoire de l'Afrique à l'université Aix-Marseille. Et ajoutons que la ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé immédiatement qu'elle se rendrait au Mali afin de s'entretenir avec les autorités.
Ces violences urbaines également dans l'actualité. Violence hier soir à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines.
Vers 21h30, des individus ont attaqué des bâtiments publics. Ils ont tenté d'incendier le bureau d'information jeunesse, puis ils ont réussi à mettre le feu à l'Arche, le centre des arts de la scène et du cirque à vocation sociale qui avait été inauguré l'année dernière. Le chapiteau en bois est parti en fumée, des policiers ont été caillassés, victimes de tirs de mortier. Il n'y a pas de blessés, deux interpellations. Renouer le fil du dialogue social, c'est l'objectif affiché par Jean-Pierre Farandou, le nouveau patron de la SNCF, officiellement entré en fonction le 1er novembre en remplacement de Guillaume Pépi. Dans une interview au journal du dimanche, il dit entendre la préoccupation des cheminots alors que les conflits se sont multipliés ces dernières semaines au sein de l'entreprise et que ce profil, une menace de grève illimitée à partir du 5 décembre contre la réforme des retraites. Alors pas d'annonce fracassante, mais Jean-Pierre Farandou fait quand même quelques gestes en direction des syndicats. Il promet notamment de remettre davantage d'agents au guichet des cars, Raphaël Ebenstein.
On va mettre plus de personnel au guichet pour que les files d'attente ne puissent plus dépasser 30 minutes l'été prochain. Jean-Pierre Farandou répond ainsi à une demande des syndicats qu'il va rencontrer au plus vite, sans doute dès la semaine prochaine. Mais au-delà de cette mesure symbolique qui prend le contre-pied de la récente politique menée par Guillaume Pépi, il dit surtout vouloir faire de la place de l'humain dans l'entreprise l'une des priorités de son mandat. Un volet spécial concernera les conducteurs de train, avec une table ronde dès ce mois-ci pour parler des conditions d'exercice de leur métier. Bref, un discours d'apaisement qui devrait être plutôt bien accueilli en interne, même si Jean-Pierre Farandou dénonce le récent épisode du droit de retrait qui s'est fait à ses yeux de manière illégitime et généralisée, ou encore la grève sans préavis au technicentre de Châtillon, des formes d'arrêt de travail qu'il qualifie d'inacceptables.
Emmanuel Macron et Marine Le Pen recueillent chacun 27 à 28% d'intention de vote au premier tour pour l'élection présidentielle de 2022, loin devant Jean-Luc Mélenchon et les autres candidats. C'est un sondage IFOP pour le JDD paru ce matin. Le chef de l'État ne recueillerait que 27% si le candidat de la droite était Xavier Bertrand ou François Baroin, alors que la présidente du RN demeure à 28%, quelles que soient les hypothèses.
Jean-Luc Mélenchon qui sera l'invité entre midi et 13h de l'émission Questions politiques. Ali Badou, Karine Bécard. Bernard.
Bientôt, un geste de reconnaissance financière pour les victimes de pédophilie au sein de l'Église catholique. La décision de principe est actée, a confié à France Info le porte-parole de la Conférence des évêques de France. Et les modalités de cette allocation seront soumises au vote des évêques. Ce sera samedi prochain à Lourdes.
Aux États-Unis, les autorités continuent de mettre des freins à l'immigration, aussi bien illégale que légale.
La dernière restriction en date annoncée début octobre par Donald Trump entre en vigueur aujourd'hui. Les États-Unis, désormais, n'accepteront plus les migrants légaux qui n'ont pas d'assurance maladie ou qui ne peuvent justifier de ressources suffisantes pour assurer leur propre santé. Correspondance à New York de Loïc Loury.
Éviter un fardeau supplémentaire pour le système de santé et pour les contribuables américains, voilà ce qu'affirmait Donald Trump début octobre en dévoilant cette mesure destinée à contrarier l'immigration légale. D'après Washington, les immigrants réguliers sont trois fois plus susceptibles que les citoyens américains de ne pas être couverts pour leur santé, d'où cette obligation à partir d'aujourd'hui avoir souscrit à une assurance dans les 30 jours suivant l'arrivée aux États-Unis ou pouvoir justifier de ressources suffisantes dans un pays où les frais de santé crèvent le plafond. La mesure possède tout de même des restrictions pour les réfugiés ou les mineurs isolés. Cela n'a toutefois pas empêché les réactions de fusées. Les États-Unis, dit ainsi la jeune démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, n'offrent pas de garantie à leurs propres citoyens en matière de santé. Ils en réclament désormais aux étrangers. Mais Donald Trump ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Il a fait de la réduction de l'immigration légale et illégale une pièce maîtresse de sa présidence. New York, Loïc Loury, France Inter.
On parle encore de Donald Trump. Il a été hué hier par les spectateurs d'une soirée de combats d'arts martiaux mixtes, des combats de MMA à New York, 6 jours après les sifflets déjà récoltés dans un stade de baseball. L'entrée du président américain dans le Madison Square Garden a provoqué une réprobation très bruyante, beaucoup plus que les quelques applaudissements et encouragements.
Et en rugby, l'Afrique du Sud est donc sur le toit du monde.
Ah oui, les Springboks qui ont largement battu les Anglais hier 32-12 sur la pelouse du stade de Yokohama au Japon, ne touche plus terre. Le trophée reste dans l'hémisphère sud et les Sud-Africains égalent désormais les Néo-Z en nombre de Coupes du Monde remportées puisqu'il s'agit de leur troisième victoire après celle de 1995 et de 2007. Ils auront signé les deux seuls essais du match grâce aux ailiers Kolbe et Mampipi. À Johannesburg, c'est un week-end de fête, Claire Bargelès.
Et les supporters sud-africains espèrent même que lundi sera déclaré jour férié pour pouvoir faire durer les réjouissances. Ryan, venu regarder le match dans une salle bondée à l'ambiance électrique, n'arrive toujours pas à réaliser que son équipe est à nouveau championne du monde.
Oh, c'est fantastique, on en est à 3 victoires, comme la Nouvelle-Zélande. On est les meilleurs joueurs de rugby du monde.
Aujourd'hui, notre père Nelson Mandela sourit depuis le paradis, s'est exprimé Desmond Tutu, l'un des artisans de la réconciliation. Car pour la première fois, c'est un capitaine noir, Siya Kolisi, qui a mené l'équipe à la victoire. Lucille en a les larmes aux yeux.
Siya m'a vraiment beaucoup ému. La dernière fois qu'on a gagné la coupe, il n'avait même pas de télévision pour la regarder. Et aujourd'hui, il lève le trophée. C'est un autre monde. C'est la plus belle chose qui puisse arriver.
Et selon Cédrica, le rugby aura, le temps d'un match, rassemblé le pays, comme l'avait souhaité en 1995 le père de la nation arc-en-ciel.
C'est comme ça que ça devait être, tous unis. C'est ce que le sport peut faire, nous rassembler. C'était juste incroyable.
De quoi faire oublier pour quelques jours les difficultés que connaît le pays et profiter au maximum de cet instant de joie collective. À Johannesburg, Claire Bargelès pour France Inter.
Il y a désormais 17 départements placés en vigilance orange aux fortes pluies et vents violents. Alpes-Maritimes et Corse du Sud se sont rajoutés à ceux de l'Atlantique et du Massif central qui attendent, elle est en train vraiment d'arriver, cette tempête Amélie.
Le point météo à suivre justement. C'était le journal de Laurence Thomas.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et on y est, hein, Jean-Michel Golinski. Amélie est bien arrivée par l'ouest, comme prévu.
Tout à fait. Elle a donné donc en deuxième partie de nuit de la pluie, des orages et de fortes rafales de vent. En matinée, les vents vers 100-120 km à l'heure vont se décaler vers le Massif central et le Midi-Pyrénées. Puis cet après-midi vers les frontières de l'Est, mais là le vent va bien faiblir. Pour le moment, et en raison du vent, 15 départements de l'Auvergne au littoral atlantique sont en vigilance orange. Notez qu'à l'est du Rhône et notamment sur la Provence, la matinée sera orageuse avec des pluies intenses sur les Alpes-Maritimes placées en vigilance orange. Donc donc orages et fortes pluies. Des orages et fortes précipitations également pour la Corse du Sud, également en vigilance orange. À la mi-journée, le vent va devenir turbulent sur l'arc méditerranéen. Avantage, il va dégager le ciel du golfe du Lion à la Provence. Et puis, le nord de la Seine échappera en partie au temps perturbé, malgré des pluies temporairement marquées ce matin sur l'Artois, les Flandres et surtout sur le bassin parisien.